Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une étoile très brillante qu'il est intéressant de repérer. C'est l'étoile la plus brillante de la constellation du Cocher qui s'appelle Capella. Si la Grande Ourse est visible, il faut prendre 5 fois la taille du haut de la casserole, soit 20 degrés, en direction de l'ouest, donc à l'opposé du manche, et on tombe sur Capella. Capella fait partie de la grande diagonale d'Andromède. C'est un long alignement d'étoiles qui sert comme moyen de repérage. Quand on part du grand carré de Pégase, cet alignement passe par Algol, Capella, Castor et Pollux dans les Gémeaux, Alphard dans l'Hydre, l'extrémité des voiles, puis Arcrux et Alpha Centauri, Chola dans le Scorpion, l'arc et la tête du Sagittaire, et puis remonte par la tête du Capricorne, le long de l'axe du Verseau, pour boucler sur la grande diagonale du carré de Pégase. Vous avez fait le tour du ciel. Alors revenons sur cette constellation du Cocher. Elle a une forme de pentagone si on lui ajoute une étoile qui vient du Taureau. La constellation du Cocher est très ancienne, sûrement grâce à la très brillante Capella, qui ne passe vraiment pas inaperçue. Les cartes célestes nous montrent là depuis des temps immémoriaux un cocher sans voiture. Néanmoins, il tient dans sa main droite un fouet et des rênes. On lui a mis sur le bras gauche une chèvre et même deux petits chevreaux nouvellement nés qui sont représentés par Nu, Eta et Gamma Auriga et qui forment un petit triangle en dessous de Capella. Le cocher, dans la mythologie grecque, est associé à Erichthonios, c'est le fils d'Héphaïstos et de Gaïa. Ce dernier aurait inventé le quadrige, ce char attelé à quatre chevaux placés de front, ou plus précisément, il aurait reproduit sur Terre le char d'Apollon, que celui-ci utilise dans le ciel pour lever le soleil. Devant tant de mérites, Zeus lui accorda une place bien méritée sous la voûte céleste. Capella est donc l'étoile la plus brillante de cette constellation du Cocher. Elle est aussi l'étoile la plus brillante proche du nord céleste. Son nom signifie « la chèvre ». Elle représente cette chèvre qui accompagne le cocher. Capella, comme elle est l'étoile la plus brillante de sa constellation, porte le nom de Alpha, et Alpha Aurigae puisqu'elle est dans la constellation du cocher. C'est Bayer qui lui a donné ce nom. Bayer, c'était un magistrat allemand passionné d'astronomie. Il a vécu au XVIe siècle et il a catalogué des étoiles dans son ouvrage « Uranométria ». Cet atlas fait état des connaissances de l'époque en rassemblant à la fois le catalogue des étoiles et des constellations de Ptolémée, mais aussi les nouvelles étoiles visibles à des latitudes plus basses et répertoriées par les navigateurs hollandais. On ne sait pas exactement combien il y a d'étoiles indiquées dans Uranométria car beaucoup sont tracées sans être nommées. Mais il y en a en tout cas plus de 1200. En écrivant son catalogue, Bayer en a profité pour donner une nomenclature un peu plus scientifique aux étoiles. Avant la publication de cet atlas, lorsqu'on voulait désigner une étoile en particulier, il fallait décrire sa position. L'étoile brillant sur le pied austral d'Andromède ou l'épaule gauche d'Orion. Mais ces descriptions étaient souvent ambiguës. Ce nouveau système inventé par Bayer consiste à attribuer aux étoiles d'une constellation des lettres grecques dans l'ordre décroissant de leur éclat. Ainsi, l'étoile la plus brillante possède la désignation alpha, puis la suivante bêta, et ainsi de suite, avec les 24 lettres que comporte l'alphabet grec. Toutefois, les moyens techniques de l'époque ne permettaient pas de classer très précisément les étoiles selon leur magnitude. Bayer regroupe donc chacune d'elles en 6 classes différentes, les étoiles de première magnitude étant les plus brillantes, et celles de 6e magnitude étant les plus faibles. Ensuite, à l'intérieur d'une même classe, Bayer ne cherche plus vraiment à classer les étoiles par magnitude, mais plutôt en fonction de leur position dans la constellation, en partant en général de la tête pour arriver au pied ou à la queue. Ainsi, dans la constellation d'Orion, par exemple, Bételgeuse, c'est Alpha Orionis, elle représente l'épaule d'Orion. Elle est classée avant Rigel, Beta Orionis, qui est le pied, alors que Rigel est en fait plus brillante que Bételgeuse. Les étoiles représentées sur la 49e planche de l'Uranométria, celle qui introduisait les 12 nouvelles constellations australes, n'ont toutefois pas reçu de désignation de la part de Bayer, signe probablement de la médiocre qualité des informations dont il disposait. Évidemment, il n'avait pas été les voir. Il n'obtenait ces informations que de la part des navigateurs hollandais. Ces étoiles ne reçurent leur désignation que 160 ans plus tard, en 1763, par Nicolas-Louis de Lacaille, qui lui a fait le voyage jusque dans l'hémisphère sud. Une désignation de Bayer est donc formée de deux parties. Une lettre, généralement une lettre grecque minuscule, mais également ça peut être une lettre latine majuscule ou minuscule. Puis le génitif du nom latin de la constellation dans laquelle il se trouve. Ainsi Alpha Tauri est la désignation de Bayer de l'étoile Aldébaran. Il est également possible d'utiliser une abréviation à trois lettres pour la constellation. Aldébaran est donc aussi désigné par Alpha Tau. L'alphabet grec n'a que 24 lettres. Alors, lorsqu'une constellation possède plus de 24 étoiles, Bayer recourt aux lettres de l'alphabet latin. Il commence par le A majuscule pour la 25e étoile. Il enchaîne avec le B minuscule, ça c'est pour la 26e, et il continue ainsi jusqu'au Z minuscule. Il n'emploie jamais ni les G ni les V minuscules, probablement pour ne pas les confondre avec les I et les U. Et il ne dépasse jamais le Z minuscule. En fait, il en a besoin du Z minuscule qu'une seule fois dans la constellation d'Hercule. Mais lorsque la désignation de Bayer sera ultérieurement étendue à d'autres étoiles, qu'on va découvrir avec le progrès des télescopes, les lettres latines majuscules seront utilisées jusqu'au Q. Alors revenons à notre étoile, notre Alpha Aurigae, Capella. Capella, c'est un système stellaire situé à environ 42 années-lumière de la Terre. Elle est donc dans la constellation du Cocher. C'est l'étoile la plus brillante de cette constellation. C'est la sixième étoile la plus brillante du ciel nocturne. Et même la quatrième de la sphère céleste visible à nos latitudes moyennes dans l'hémisphère nord, après Sirius, Arcturus et Vega. Sa magnitude apparente est de presque zéro, c'est 0,082. À l'œil nu, on l'identifie comme une seule étoile, mais en fait, Capella, c'est un système stellaire composé de deux paires d'étoiles. La première paire consiste en deux brillantes étoiles géantes de type G, chacune avec un rayon d'environ 10 fois celui du Soleil. Elles orbitent l'une autour de l'autre. Ce sont des étoiles qui ont quitté la séquence principale qui évolue lentement en géantes rouges. Elles n'atteindront ce stade que dans plusieurs millions d'années. La deuxième paire, c'est deux naines rouges, qui sont situées à peu près à 10 000 unités astronomiques des premières. Parce que rappelons-nous, lorsque nous mesurons l'écart entre deux astres dans le ciel, on ne fait qu'évaluer leur distance apparente depuis la Terre. Il ne s'agit pas de l'éloignement réel entre ces deux astres. Ainsi, les quatre étoiles qui sont vues proches depuis la Terre sont en quelque sorte alignées, comme si le deuxième couple était loin derrière le premier, à une distance de 10 000 unités astronomiques, c'est-à-dire 1500 milliards de kilomètres quand même. Souvenez-vous, l'unité astronomique, c'est la distance entre le Soleil et la Terre, qui a été utilisée pour simplifier bien des mesures de distance qui deviennent vite fastidieuses si on s'en tient au kilomètre. L'unité astronomique a aussi servi de base à une autre unité, pour mesurer les distances dans l'univers grâce à la parallaxe. Le mot parallaxe, ça veut dire déplacement continu. C'est en fait le déplacement apparent d'un objet quand l'observateur se déplace. Je vous propose de faire une petite expérience. Si vous tenez votre bras tendu et votre doigt levé, et que vous le regardez d'abord avec l'œil gauche, puis après avec l'œil droit, il vous semblera que ce doigt a changé de position par rapport à un arrière-plan qui lui semble plus lointain et donc immobile. Eh bien, dans le cas de la mesure d'une étoile, on va attendre que la Terre se déplace sur son orbite pour modifier le point de vue de l'observateur. Cette parallaxe est donc le terme qu'utilisent les scientifiques pour désigner cet effet du changement de position d'un observateur sur l'objet qu'il observe. C'est un effet résultant d'une observation sous deux angles différents, qui peut permettre d'évaluer les distances hors de portée en ayant simplement accès à une longueur de base et à un angle. La parallaxe consiste donc à observer le déplacement d'un objet proche devant un fond très éloigné, en effectuant l'observation depuis deux points géographiques différents. Dans le cas des étoiles, les mesures sont effectuées à 6 mois d'intervalle. La Terre a alors parcouru la moitié de son orbite, c'est-à-dire 300 millions de kilomètres, deux fois l'unité astronomique. On mesure alors grâce aux étoiles d'arrière-plan, qui elles sont suffisamment lointaines pour être considérées comme fixes malgré le déplacement de la Terre, on mesure alors la distance angulaire entre les deux positions relatives de l'étoile qui nous intéresse. Cette distance est donc le double de la parallaxe dans un triangle formé par la Terre, le Soleil et l'étoile. On applique ensuite les formules trigonométriques pour trouver la distance entre la Terre et l'étoile. La parallaxe nécessite donc une mesure des distances angulaires d'une grande précision. Après Hipparque, astronome de la Grèce antique, peu de progrès dans la précision des mesures ont été effectués. Jusqu'au XVIe siècle, la révolution vient de Tycho Brahe, cet astronome danois qui arrive à estimer les positions des étoiles à environ une minute d'arc près, c'est-à-dire à un 60e de degré. Il conçoit et met au point un grand nombre d'instruments comme le sextant ou le cadran mural, et change ainsi profondément la pratique observationnelle. De manière à encore simplifier les calculs, on définit en astronomie une nouvelle unité de distance. Ça s'appelle le parsec. On dira qu'une étoile est située à 1 parsec si sa parallaxe est égale à 1 seconde d'arc. Ça équivaut à une distance d'à peu près 3,26 années-lumière, ou 30 000 milliards de kilomètres. Revenons à notre constellation du Cocher. Je vous propose d'observer une autre étoile qui est intéressante, c'est AE Auriga. AE Aurigae, c'est une étoile bleue dans la séquence principale. Elle a, peu, elle a une apparence à peu près banale, une magnitude de 6, donc pas très évidente à voir. Hein. 6, c'est vraiment la magnitude la plus élevée que notre œil humain puisse voir. Il faut donc d'excellentes conditions. Mais ce qui est intéressant avec cette étoile, distante d'environ 1400 années-lumière, c'est que c'est l'une des trois étoiles évadées, qui se déplace extrêmement rapidement dans notre galaxie. Les deux autres étoiles, c'est Mu Columbae et 53 Arietis. Toutes les trois semblent s'échapper à environ 100 km par seconde du même point de la nébuleuse d'Orion. Selon une théorie, ces étoiles auraient été à l'origine partie prenante d'un système multiple qui se serait désagrégé lors de l'explosion en supernova de l'un des membres, il y a à peu près 3 millions d'années, projetant les autres étoiles dans des directions différentes. Notre constellation du Cocher est une constellation riche en amas ouverts, relativement lumineux, qu'on peut observer aux jumelles. Alors prenons un petit peu le temps du coup de parler d'instruments d'observation. Premier instrument d'observation, c'est votre œil. C'est quand même un plaisir de savoir repérer et d'observer les étoiles à l'occasion d'une balade nocturne. Mais si vous vous intéressez au ciel la nuit, vous aurez rapidement envie d'en voir plus. Alors voyons quels moyens sont à votre disposition. Comme premier instrument, je vous propose des jumelles. On n'y pense pas forcément, mais les jumelles sont un très bon moyen d'observation. D'ailleurs, la plupart des astronomes chevronnés les ont toujours à portée de main. Une bonne paire de jumelles va grossir 7 ou 8 fois, tout en gardant un assez grand angle de vision. Vous pourrez observer entre 5 et 8 degrés, l'équivalent de 3 à 4 fois la pleine lune. Le tout pour un budget assez raisonnable, et en plus c'est facile à ranger et à transporter. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir aux jumelles? Dans de bonnes conditions, à l'œil nu, on peut voir à peu près 3000 étoiles. Aux jumelles, dites-vous qu'on peut voir 100 000 objets. L'été offre des spectacles très intéressants comme Mizar et Alcor, le célèbre couple d'étoiles situé dans la Grande Ourse, la superbe M13 par exemple, le grand amas d'Hercule. En été, vous pouvez observer la Voie lactée, depuis la constellation du Cygne jusqu'à celle du Sagittaire, à la recherche d'amas d'étoiles ou de nébuleuses de gaz. Certaines sections de la Voie lactée sont, à mon avis, bien plus intéressantes aux jumelles d'astronomie que dans n'importe quel télescope. En automne, avec vos jumelles, ne manquez pas la galaxie d'Andromède. Alors, aux jumelles, elle ressemble à un petit nuage ovale et faiblement lumineux. Vous pourrez contraster sa douceur avec le scintillement délicat du double amas de Persée. Tout cela attend que vous les traquiez aux jumelles avec des cartes du ciel et des guides détaillés.